Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Roxane Nonc. Militante écologiste, elle est à la tête du compte Instagram Dear Lobbies. J'avais déjà reçu Roxane lors de la première saison. Dans cet épisode, elle nous parlait de sa reconversion professionnelle, de sa malencontreuse aventure avec la pilule contraceptive et du lancement prochain de son compte Instagram Dear Lobbies. Presque 3 ans plus tard, nous revenons ensemble sur les années passées et le lancement de son média indépendant. Aujourd'hui, Roxane réunit sur Instagram et sur son site des dizaines de milliers de lecteurs. Dans cet épisode, on parle du jugement de l'autre, souvent bien trop présent lorsqu'on parle d'écologie, ainsi que du regard que l'on porte sur la personne que l'on croise dans la rue ou sur notre voisin. Nous parlons également des projets de Roxane, de l'écriture de son livre à son souhait de rejoindre une ONG. Roxane nous en dit plus sur son média qu'elle qualifie de disruptif et sans filtre. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à tous. Bonjour Roxane.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va très bien en ce mercredi gris. De juillet. Donc vous écoutez ça en septembre, mais on enregistre en juillet. Donc il fait un petit peu chaud, on est posé dans un petit appart parisien, on est bien.
On enregistre cet épisode après en avoir enregistré un premier ensemble il y a maintenant 2 ans et demi. Donc ça date, à l'époque tu avais plein de projets en tête que tu as menés, brillamment menés même. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui Dear Lobbies et ce que tu fais au quotidien, même si je sais qu'aucune journée ne se ressemble, concrètement nous détailler un peu ce média dont tu nous parlais brièvement dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble et pour lequel les auditeurs, je pense, ont hâte d'écouter la suite.
Alors, Dear Lobbies est né, Dear Lobbies a grandi, Dear Lobbies a maintenant à peu près 1 an et demi. Et mon compte Instagram est suivi par 29 000 personnes. Donc, ça a très bien marché, bien au-delà de mes espérances. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Dear Lobbies ? C'est un compte Instagram qui questionne. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Parfois, on me le reproche. Mais je pense que c'est simplement que les gens sont habitués à une facilité et à recevoir de l'information. Là où moi... Je me refuse à vulgariser et à délivrer des infos prémâchées. Je pense que il est très important de se construire des opinions personnelles et c'est en se questionnant qu'on y arrive. Donc certes, ça demande plus d'efforts, mais le but n'est vraiment pas de dire aux personnes qui me suivent « il faut penser comme ci ou comme ça ». Le but, c'est de les faire réfléchir. Et donc, je serais très contente de recevoir des messages de personnes qui me diront « Voilà, j'ai regardé les sources après avoir lu ta fiction. » Et je parlerai des fictions plus tard. Et en fait, je ne suis pas d'accord. Je pense que le futur ne ressemblera pas à ça. Ok, très bien. Tu as lu les sources. C'est exactement ce que je voulais. Et tu t'es forgé ton opinion. Donc voilà. Donc, c'est un compte qui questionne. Et je me base sur différentes choses. Et vraiment, ce qui fonctionne le mieux, c'est les fictions. Et donc, les fictions, je ne sais pas si on en avait parlé la première fois.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé après. En fait, les fictions, c'est quelque chose que je vois comme du nudge marketing. En fait, le nudge marketing, c'est de la manipulation, clairement, pour amener les gens d'un point A à un point B sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, ça peut être très problématique, voire même dangereux quand c'est utilisé par des marques ou par des gouvernements ou par des partis extrêmes. Parce qu'on manipule clairement l'esprit des gens. Mais moi, je m'en sers en fait, non pas pour amener une personne d'un état neutre à une pensée que j'ai créée, mais j'amène les gens d'un point A à un point de délibération. Donc en fait, je les incite via les fictions à aller voir des contenus qui, de prime abord, sont assez indigestes. Mais étant donné qu'ils ont lu une fiction qui se passe dans un futur plus ou moins proche, qui fait peut-être peur, ça motive à se dire « Oula, je sais pas si c'est possible, ça m'inquiète, donc du coup, je vais aller lire ce rapport scientifique. » Malheureusement, la plupart du temps, le rapport scientifique confirme ce que j'avais imaginé. Mais au moins, ça permet aux personnes d'avoir des sources. Et je sais que quelqu'un qui a lu un rapport scientifique, même si ça a été difficile, et c'est difficile pour tout le monde de lire un rapport scientifique, eh bien, cette personne va aller parler à son entourage avec des atouts et des cartes, en fait. Et je pense que quand tu as lu un rapport comme ça, tu es assez fier de rentrer dans une discussion, non pas avec des opinions d'affiliation, donc c'est-à-dire quand on calque ses opinions sur des personnes qu'on considère comme des experts ou des proches, etc. Donc là, on ne se cale pas sur une opinion d'affiliation, mais sur des sources qu'on a même nous-mêmes étudiées. Donc voilà, en fait. Donc ce compte, c'est créer des questionnements, des remises en question. Généralement, quand je pose des questions, je me pose aussi des questions à moi-même et j'évolue moi-même. En fait, ce compte me fait évoluer autant qu'il fait évoluer les gens. Et j'ai comme outil des fictions et j'avais d'autres choses jusqu'à maintenant. Mais en fait, là, je suis en train de travailler à réorganiser mon compte pour le rendre plus sain. Enfin, comment dire plus sain ? Plus sain, plus simple et peut-être moins riche en infos. En fait, jusqu'à maintenant, je postais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en septembre, donc au moment où vous allez entendre cet épisode, j'aurai une nouvelle ligne édito qui sera peut-être... moi, je vois ça comme du minimalisme en termes de réseaux sociaux. Moins de posts, mais des posts que j'ai beaucoup plus travaillé et que j'ai imaginé en amont. Donc, il y aura toujours des choses spontanées. Mais je veux cette fois-ci avoir une vision à long terme de ce que je veux apporter et de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc là, pour l'instant, c'est une grosse pause, un gros chantier, d'autant plus que je me remets en question, moi, toute seule, par rapport à certains sujets. Tu as dû le voir, j'ai opéré une convergence des luttes il n'y a pas très longtemps. C'était quelque chose qui était déjà présent chez moi, mais dont je ne parlais pas, forcément. Pas forcément. Mais en fait, il y a plein de sujets qui sont arrivés sur le devant de la scène. L'écologie décoloniale, même le féminisme qui était en moi, mais que je comprenais sans forcément pouvoir mettre des mots dessus. Je me suis formée au féminisme sur Instagram. Donc en fait, là, j'opère plein de convergences et j'ai juste besoin de me poser, de savoir comment je peux tout traiter. Enfin, je ne pourrais pas tout traiter, mais en fait, je vais choisir les sujets que je vais traiter et je vais assumer de ne pas en choisir certains autres. Je veux que ce soit hyper solide et qu'on puisse rien me reprocher, dans le sens où même ce sur quoi il y a matière à discuter, donc c'est-à-dire par exemple un manque d'inclusivité, j'expliquerai simplement que en fait, je suis une personne toute seule, que j'ai un seul cerveau, que j'ai de l'énergie tous les jours, et que c'est pas illimité, donc je me concentrerai sur certaines choses à ma manière. Ça évoluera certainement plus tard, encore une fois. Mais voilà, en fait, je suis en chantier et j'assumerai d'être minimaliste, en fait.
Moi, ce que j'aime vraiment avec ton compte, au-delà du fait qu'il nous pousse à nous questionner, c'est que, comme tu le disais, tu te questionnes aussi et tu sais évoluer. Tu sais faire évoluer ta réflexion et ça, c'est hyper agréable en fait, parce que contrairement à la presse, par exemple, qu'on peut lire, c'est aussi parce que c'est un réseau social et donc qu'on peut te suivre et tout, mais on voit vraiment le cheminement de ta réflexion, on voit vraiment aussi quand, suite à une rencontre, tu peux pas forcément changer d'avis, mais en tout cas nourrir ta réflexion, et ça, pour moi, c'est vraiment la clé pour faire passer des messages forts. Tu qualifies Dear Lobbies d'un média disruptif.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que j'ai absolument aucun filtre. Je fais vraiment pas exprès dans la vie. Parfois, on me trouve rude, mais je sais pas en fait mentir. Donc ça va être beaucoup d'infos brutes. Donc brutes à la source, par exemple. Plutôt que vous sortir un article sur l'évolution de l'écologie depuis tant d'années, je vais aller vous sortir des phrases de certains rapports qui ont été produits dans les années 70, des choses comme ça, pour simplement montrer que voilà, il y a 50 ans, on disait les mêmes choses, on était déjà au courant, etc. Donc disruptif par rapport à plein de choses, en fait. Par rapport au fait que je suis une humaine, en fait, tout simplement, je pense. Et que du coup, j'ai une manière de traiter les infos qui est à la fois objective et subjective. Enfin, on n'est jamais vraiment 100% objectif quand on choisit des sujets et qu'on choisit la manière de les traiter. Mais j'essaye toujours de prendre du recul sur les choses. En fait, quand il se passe un événement, souvent les gens me disent « Tiens, Maroxane, il faudrait que tu postes ça, etc. » Mais en fait, moi, j'aime bien attendre. Parce que je sais qu'il y a souvent... Enfin, il peut y avoir des fake news. Enfin, là, je vais te donner un exemple. Cet été, pendant le... Enfin, cet été, non. Pendant le confinement, il y a eu un accident. Donc, il y a eu un cas de violence policière en banlieue. Et donc, un jeune homme qui a été... volontairement renversé par la police. Et pendant un moment, pendant 2-3 jours, on m'a dit « Pourquoi t'en parles pas ?» On lui a arraché la jambe, etc. J'ai en fait, non, je vais en parler, mais j'ai juste envie d'attendre d'avoir plus d'infos et d'avoir des vraies sources. Parce que, en fait, il n'a pas eu la jambe arrachée. C'est tout aussi grave ce qui s'est passé, mais j'aurais dit des bêtises et j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc après, 3 jours plus tard, il y a eu d'autres articles qui sont sortis avec des chiffres, etc. Et donc, j'en ai parlé. Donc, j'essaye de faire très attention. Donc, je prends du recul. Le plus souvent, j'essaie d'avoir des infos, du coup, pas chaudes, mais tièdes, voire froides. Donc, j'essaie vraiment de m'orienter vers ce genre de choses. Et donc disruptif par son essence, en fait, tout simplement. Et parce que je suis anti-système, quoi. Je suis anti-système, je suis indépendante, je suis libre. Donc, forcément, j'ai pas la même manière de traiter les infos qu'un magazine qui se veut libre, mais par ailleurs a des publicités pour tel ou tel secteur dans ses pages. Enfin, voilà.
Et puis t'es seule aussi.
Ouais, je suis seule. Je suis seule. Je fais ce que je veux comme je veux. Après, comme tu disais, je me remets en question assez facilement. Même quand des haters ou des trolls m'envoient des messages, je m'en sers de moteur et d'énergie pour rebondir sur ce qu'on m'a reproché et pour dire voilà. Je trouve que ce message était pas nécessaire et était pas justifié. Pourquoi ? Et j'en remets une couche. Voilà, j'explique. Quand je reçois des messages comme ça, je les poste en story pour expliquer aux gens. Enfin, je trouve que ça sert à rien de parler avec un hater juste en privé. Donc, je mets publiquement ce qui s'est passé. Et puis, mine de rien, ça me fait quand même évoluer. Et donc, en effet, j'ai beaucoup, beaucoup évolué depuis le début de Dire le Biz. Là, maintenant, je suis calme. Avant, j'étais super énervée. J'étais très énervée parce que j'avais plein de choses à dire et que j'étais révoltée contre le monde actuel et la société actuelle. Parce que aussi, je sortais de ma phase de découverte de la collapsologie. J'étais, je pense... j'avais peur de tout. J'avais peur de l'avenir. J'étais... Enfin, tout me rendait dingue. Les comportements individuels me rendaient dingue. Les comportements des gouvernements me rendaient dingue. Et petit à petit, j'ai évolué vers un truc très sain, je pense. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai un taux d'énergie par jour. Il faut que je choisisse, pour être efficace, de mettre cette énergie au service de quelque chose. Et j'ai décidé, il n'y a pas longtemps, enfin ça s'est fait tout seul, et en cheminement, je me suis dit « Ok, je vais continuer à le faire et je vais essayer de le faire tout le temps. » Je ne juge plus les comportements individuels. Je ne les juge plus. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas la vie des gens, je ne connais pas la grille de lecture des gens. Si je vois quelqu'un qui jette une clope par terre, ça va me rendre dingue. Mais ça se trouve, cette personne, elle vient d'avoir un appel hyper douloureux. Elle ne pense pas à mettre sa clope dans la poubelle à ce moment-là. Et moi, je vais la prendre pour une personne qui fait tout le temps ça. Et en fait, ça ne sert juste à rien. Donc ça, c'est un exemple, la clope, parce que c'est un des stress les plus fréquents dans ma vie. Ça et les deux N à mon prénom. C'est le truc qui arrive tous les jours, tu vois.
Je connais bien.
Ouais, tu connais ça. Mais tu vois, c'était vraiment le stress, un des stress les plus fréquents de ma vie, de voir des gens jeter des clopes par terre. Donc, j'essaie de me détacher de ça. J'essaie aussi de me détacher de plein d'autres choses, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas à zéro déchet. Moi-même, je ne suis pas parfaite, mais en fait, pendant longtemps, j'avais du mal avec les gens qui n'étaient pas du tout dans l'écologie et qui n'étaient pas intéressés par tout ça. Et en fait, j'oubliais totalement qu'il y avait des gens qui avaient d'autres priorités. Pour moi, l'écologie, c'était le problème numéro un qui, s'il n'était pas réglé, invaliderait tous les autres combats parce que forcément, si tu n'as plus de planète, tu ne peux plus combattre quoi que ce soit. Mais en fait, les autres combats sont super importants aussi. Et c'est pour ça que j'opère une convergence. Et là, la convergence actuelle, du coup, c'est écologie, antiracisme, lutte sociale, féminisme. Il y en a plein d'autres. Maintenant, je ne peux pas me concentrer sur tout. Heureusement, on est tout un tas de comptes sur Instagram qui sont complémentaires et qui permettent du coup de balayer tous ces sujets. Mais voilà, moi, j'ai décidé de me recentrer pour mon bien-être mental, pour la cohérence de mes contenus, pour l'impact de mes contenus et pour être efficace, tout simplement.
C'est difficile d'arrêter de juger les gens.
Alors, c'est pas tant que ça, en fait. En fait, c'est assez facile chez moi, là, en ce moment. Je pense que quand tu le décides... En fait, je suis quelqu'un qui ne juge pas. Enfin, je pense que j'ai jugé à un moment. Et quand j'ai commencé à lire les accords Toltec, j'ai changé. J'ai vraiment changé. Ce livre m'a fait vraiment changer. Ce n'est pas juste un livre comme ça. C'est un livre qui m'a fait changer. Et à chaque fois que je me sens mal, je le relis. Je l'ai lu 4 fois, d'ailleurs. Et ça me recadre, en fait, dans une vie, dans une manière de vivre saine vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et déjà, en partant de là, j'avais une vie plus saine. Et ne pas juger, en fait, c'est pas simplement ne pas juger. C'est ne pas juger, et cette volonté de ne pas juger est motivée par d'autres choses. C'est par la compréhension des autres humains. Donc là, je parle des humains. On n'a pas tous la même vie. Et on a tous des raisons pour lesquelles on n'est pas forcément engagé, pour lesquelles on se concentre sur d'autres choses. Et en fait, partant du principe que je ne connais pas la vie des gens, je n'ai pas à juger leur comportement.
Et pour les politiques, alors ?
Alors, ce n'est pas pareil, en fait. Non, non, je ne juge pas les comportements individuels. Je ne juge pas le peuple. Parce que se taper dessus, c'est... Moi, j'imagine toujours, je sais pas, un espèce de théâtre avec des guignols. Et tu as les politiques qui font absolument n'importe quoi. Et ailleurs, enfin, et en dessous, le peuple qui se bat contre lui-même. Alors même qu'on devrait avoir... toute notre énergie dédiée à nous battre contre les politiques et les industries qui, en conscience, dégomment tout. Donc, évidemment que j'ai un jugement. D'ailleurs, je ne suis pas OK avec les comportements individuels que j'ai décidé de ne plus juger. C'est simplement que je ne veux plus mettre mon énergie là-dedans. Et je veux... évidemment que je continue à juger les politiques qui sont néfastes. Mais c'est juste que mon énergie, maintenant, elle est simplement plus que sur ça. Et pas sur d'autres choses. Ce que je disais, pour expliquer ça, c'est que pour moi, les comportements individuels, c'est symptomatique d'une société qui va mal. Et c'est surtout des comportements que les industries, les gouvernements ont créés et attendent. Enfin, quand t'as quelqu'un qui achète des bouteilles plastiques, c'est parce que les bouteilles plastiques, ça existe, tu vois. Je suis pas forcément d'accord avec Coluche, tu vois, la phrase qui dit « il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende plus ». Non, non, il suffirait que ça soit plus produit, en fait, pour que les gens n'achètent plus. C'est facile de dire que c'est l'humain et le comportement individuel qui fait que... Bon, après, cette phrase, elle est très bien, mais c'est vrai que c'est... j'en ai marre de culpabiliser les gens. J'en ai vraiment marre. Donc, prenons toute notre énergie à combattre la maladie et non pas les symptômes. Parce que le parallèle, il est vite fait avec la médecine. Si t'es malade et que t'as, je sais pas, t'as des plaques sur le corps, t'as machin, 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 alors que c'est la maladie qui fait tout ça et que tu ne traites que tes plaques avec de la crème, elles vont disparaître un moment, mais ça va revenir. Alors que si tu t'en prends à la maladie, c'est plus efficace. Donc c'est pareil pour la vie militante. Donc ça, penser comme ça, ça a sauvé mon militantisme parce que ça m'a permis de me recentrer, d'avoir un gain d'énergie parce que je lâchais du lest sur d'autres choses. Je pense que c'est très sain, en fait. Et on est plein dans cette optique-là. On est en train on est pas mal à devenir comme ça, en fait.
T'en es arrivé là grâce à des rencontres que tu as faites ?
Oui, forcément. Parce que moi, je me nourris. J'observe beaucoup. J'observe beaucoup et je me nourris beaucoup des gens parce que je suis libre, en fait. Je suis libre. Par exemple, j'ai jamais été dans tout ce qui est mode, etc. Je suis toujours un esprit libre. Et je peux me nourrir de n'importe qui, même de personnes que je déteste. Parce qu'une personne que je déteste peut avoir une opinion à un moment qui m'intéresse. Donc, parfois, les gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est... Alors, ceux qui sont dans le dialogue, j'entends, c'est les personnes qui m'apportent le plus. Parce que ça... OK, ça flatte pas mes biais cognitifs, mais ça me fait avancer. Donc évidemment, ce sont des rencontres qui m'ont fait évoluer, mais je pense que j'ai un truc en moi aussi, un espèce de feu intérieur. J'ai un truc en moi depuis toujours qui fait que j'avance. C'est mon intuition, en fait. Mon intuition me guide tout le temps. Donc les rencontres, les lectures, les podcasts, les choses que j'observe. En fait, c'est tout mon contexte qui me fait évoluer. Hein. Il n'y a pas une seule chose qui me fait évoluer. C'est tout mon contexte, mais j'ai une force en moi, une intuition qui fait que Bah, je sais pas, c'est facile pour moi d'évoluer, en fait.
Là, tu disais que tu es en pause pour mieux te déconstruire et te reconstruire. C'est pas évident, j'imagine. C'est intéressant.
Il y a des phases.
Ouais.
Il y a des phases. Tu vois, par exemple, par rapport à l'écologie décoloniale et au racisme.
Est-ce que tu peux nous faire 2-3 lignes sur l'écologie décoloniale pour les auditeurs? Parce que j'ai pas encore d'épisode sur le sujet, okay. C'est prévu. Mais...
Alors, tu vois, là par exemple, tu vois, c'est un peu malvenu pour moi de le faire. Parce que, mais du coup, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis allée, en fait, dans cette cause. Mmh. Tu vois, ce serait. Ça devrait. Tu vois, je crois que tu veux inviter Jérémy.
Par exemple.
Donc, ce serait mieux que ce soit quelqu'un qui est vraiment concerné par la lutte, qui puisse en parler. Mais du coup, je vais te parler en tant qu'allié. L'écologie décoloniale, en fait, c'est simplement que l'écologie et le milieu écolo est très blanc et très masculin. Et en fait. On oublie tout un pan de l'écologie quand on ne pense qu'aux petits gestes du quotidien et à tout ce qu'en fait, c'est un cliché, mais les bobos parisiens mettent en avant. Par exemple, en France, si je te dis que y a des gens qui tombent encore malades parce qu'ils cultivent des fruits avec des produits qui sont interdits, tu me dirais, c'est où? C'est aux Antilles, dans les Dom-Tom, parce que pourtant c'est la France, mais dans ces territoires, t'as aussi des endroits où il n'y a pas d'eau potable depuis des dizaines d'années. Enfin, c'est juste pas normal. Dans ces territoires, t'as, par exemple, en Guadeloupe, t'as plus de CHU depuis plusieurs mois, voire années. S'il y a quelque chose de grave qui arrive, il n'y a que un ou deux hélicoptères qui peuvent les rapatrier en Martinique. Et tout ça, c'est des territoires qui sont complètement délaissés. Et je te parle du coup du cas français, mais au global, les personnes racisées sont les plus touchées par l'écologie. Et c'est complètement inconcevable et ahurissant qu'un milieu écolo ne pense même pas à inclure ces luttes. Jusque-là, elles étaient peut-être intégrées, mais pas de manière très sincère. Mais là où je te dis que c'est compliqué pour moi d'en parler, parce que voilà, je suis là en tant qu'allié. Donc, en tant qu'allié, je te dirais, et je dirais aux personnes qui écoutent, d'aller voir les comptes majoritairement donc de Jérémy BSN, de Annabelle AIM, de Canel, Canobis, qui d'ailleurs ils vont partir prochainement en reportage aux Antilles, en Martinique. Et en septembre, leur reportage sera sorti. Donc, en fait, c'est. Moi, mon job en tant qu'allié, c'est de renvoyer vers ces comptes ou vers les livres. Donc, pour l'écologie décoloniale, il y a un livre qui s'appelle « Écologie décoloniale », je crois d'ailleurs, de Malcolm Ferdinand. Voilà, je renvoie à des sources et à des gens qui luttent. C'est pas à moi de prendre la parole dessus. Il faut que ces personnes soient plus souvent invitées pour parler de ce qu'elles vivent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais du coup, c'était quelque chose à laquelle on pensait avec Jérémy, parce que Jérémy, on est partners in crime. Enfin, on avait très bien vu depuis longtemps que le milieu écolo était problématique parce qu'il était, il était blanc et masculin. On avait eu plusieurs projets pour essayer de faire changer ça. Et en fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que toutes ces personnes dont je t'ai parlé, donc Canel, Annabelle, Jérémy, ont dû mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que c'était il fallait le faire maintenant, quoi. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que j'en parle assez? Est-ce que c'est à moi d'en parler? Comment il faut que j'en parle? Est-ce que moi j'ai des comportements problématiques? Donc j'en ai parlé surtout avec Annabelle et effectivement j'avais eu des comportements problématiques sans même m'en rendre compte. Mais dans ce cas-là, j'écoute et je me remets en question. Et c'est pour ça que je fais une pause. Et c'est pareil pour le féminisme. Tu vois, moi, je suis calée, ultra calée en écologie, mais en féminisme, je connais pas assez bien les termes. Enfin, on m'a déjà dit que j'étais transphobe parce que j'avais partagé des contenus d'une personne dite transphobe. Et moi, ça m'avait ultra énervée. Je me suis dit, mais même pour ça, tu vois, je pense qu'il faut que j'écoute et que j'essaie de me remettre en question. Si on me dit que ce que j'ai fait est transphobe, c'est qu'il y a certainement quelque chose. Donc, plutôt que de m'énerver, il faut que j'essaye d'appréhender tous ces sujets et de gagner en compétences pour ne plus faire d'erreurs. Et après, de toute façon, j'en ferai certainement toujours, Mais je parle là aux personnes qui, du coup, essaient de se remettre en question et peut-être ont peur d'aborder ces sujets. Sachez simplement que si vous êtes dans l'optique d'apprendre et que vous écoutez ce qu'on vous dit, il n'y aura pas de gros problèmes. Simplement, il faut se remettre en question quand on nous demande de nous remettre en question. C'est juste la démarche saine. Donc voilà, je suis en pause pour avoir une meilleure ligne édito qui était déjà respectueuse, mais j'ai envie de te dire qu'il est encore plus. En fait, j'essaie toujours de m'améliorer. Voilà. J'essaie d'être une bonne humaine.
Je pense que tu es sur la bonne voie.
Ouais. J'essaie vraiment de faire de mon mieux et d'avoir de l'impact sans avoir de problématiques, etc. Ça me fait bégayer. Voilà.
Depuis la création de ton compte Dear Lobbies, donc il y a bientôt 2 ans.
Un an et demi.
Yeah.
C'était en janvier, ouais, donc un an et demi.
Un an et demi.
Pile un an et demi.
Comment tu t'es sentie ? Je sais qu'avant, tu étais quand même assez angoissée ou en tout cas déprimée par l'avenir. C'était une grosse angoisse pour toi, à juste titre. Est-ce que partager ces contenus sur Instagram, échanger avec ta communauté, t'as fait positiver ou au contraire, t'as plongé dans les abysses de la dépression ?
Alors, ouais, il y a quelques années, du coup, je découvrais la collapsologie et l'état du monde, donc j'étais totalement déprimée. Là, je vis ma meilleure vie. Il y a des phases. Il y a des phases dans le déni, il y a des phases dans l'acceptation des choses. Et en fait, je ne suis pas sûre que ce soit mon compte qui m'ait fait évoluer, parce que je traite toujours des mêmes sujets à peu près de la même manière, et les sujets sont toujours aussi graves, mais simplement, en fait, je dirais, mais c'est paradoxal, hein, mais que de découvrir l'état du monde m'a fait prendre conscience de la valeur de la vie et de la valeur du moment présent. Mais je te le dis, mais c'est hyper intense chez moi. Je savoure tout ce que je vis et je suis extrêmement heureuse, plus que jamais, parce que je sais que ça m'est cher et que c'est... Et que tout peut se dégrader à tout moment. Quand on parle de collapsologie, généralement, on parle de 2025 comme date butoir. C'est dans 5 ans, hein. Donc c'est dans pas très longtemps. Et puis de toute façon, on voit que tous les étés, il y a plus de canicules. Il y a de plus en plus de problèmes. Mais du coup, ça me fait savourer sincèrement l'instant présent. Donc il y a ça, et il y a aussi les derniers combats, donc en partie l'écologie décoloniale, où on a dû faire un travail, nous militants, de tous bords et de tous sujets, un travail pour faire la liste de nos privilèges. Et même si j'étais très consciente de mes privilèges, j'avais occulté certains privilèges. Le privilège blanc, tu vois, je l'avais un peu occulté. Et quand tu fais la liste des privilèges que tu as, et que tu sais par ailleurs que le monde actuel va mal, et que ça n'ira pas en s'arrangeant, tu commences à savourer tout ce que tu vis, mais d'une manière mais intense. Et je suis en plein dedans. Je vis ma meilleure vie, alors même que j'ai jamais été autant au courant des problématiques du monde. Parce que j'ai de la chance, tout simplement. Et donc, j'ai envie de me servir de cette... Ouais, il y a un camion dans la rue, si vous entendez quelque chose. Je veux me servir des privilèges que j'ai pour lutter, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en profiter. En fait, je veux en profiter de la bonne manière. Donc, c'est vivre intensément, en étant respectueuse des autres et de la Terre autant que possible, et de m'en servir aussi pour lutter. Donc là, quand je te dis que je suis dans un mode où je me sens très saine d'esprit, c'est hyper sincère. Je crois que je n'ai jamais été aussi bien de ma vie, mais c'est parce que j'ai réussi à trouver mon équilibre. Et aux personnes qui nous écoutent, faire la liste des privilèges qu'on a, et ça commence par vivre en Occident, avoir un toit sur la tête, avoir de l'eau courante, de l'eau fraîche, de l'eau chaude, de l'électricité, je ne sais plus si on l'a dit, de la nourriture dans les magasins. Enfin, déjà ça, c'est la base. Après, quand on parle de la France, on a un système de santé qui est quand même hyper, hyper bien fait. Quand on perd notre travail, on a du chômage. Donc, OK, tout n'est pas parfait, mais tout ce qu'on a en France, on ne l'a pas forcément ailleurs. On a énormément de privilèges qu'on ne conscientise pas. Et quand on fait cette liste des privilèges, et du coup, en parallèle, du coup, ça se transforme en liste de gratitude, c'est hyper impactant dans la vie. Je suis pas en mode développement personnel là, c'est juste des faits. Je dis pas non plus qu'il faut transformer du négatif en positif, mais même si on a eu une vie difficile, on a quand même des privilèges, c'est sûr. Si on a eu une vie difficile, il faut essayer de trouver un équilibre là, tout de suite, à l'instant T, et se servir des choses difficiles qu'on a vécues, non pas en les transformant magiquement en quelque chose de positif, mais il faut s'en servir comme des moteurs et comme des ajouts à notre grille de lecture pour peut-être s'en servir et aller plus loin dans ces combats. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis.
Si, si. Et je te rejoins sur la liste des privilèges. En fait, j'en ai aussi pris conscience il n'y a pas très longtemps. J'étais partagée entre la honte et en même temps le sentiment de me dire bah, c'est bien de le faire maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je conseillerais aux auditeurs. Ça ne prend pas très longtemps et on ne pourra sûrement pas tous les lister. Mais déjà d'en lister quelques-uns.
C'est super important. Ouais. C'est important pourquoi ? Parce que j'en ai parlé avec plusieurs potes il n'y a pas très longtemps. Et autour de verre, c'est une de mes questions préférées en ce moment. C'est quoi tes privilèges ? Liste-moi tes privilèges. Il y en a qui n'arrivent même pas à en citer un. Et je me dis, ouais, quand même, là t'abuses.
Mais, il y a du boulot.
Mais par contre, quand tu leur dis, ils disent, ah oui, c'est vrai, j'avoue. Mais putain, c'est super important de faire ça. Hein, parce que. Ok, enfin, c'est pas pour dire qu'il y a toujours pire ailleurs. C'est pas du tout dans cette optique-là. Mais juste, sois quand même conscient de ta chance. Et essaye de te servir de toutes les chances que t'as pour être quelqu'un de bien et pour faire le bien avec les privilèges que t'as. Typiquement, tu vois, les gens qui ont plein de privilèges et qui s'en servent pour avoir un compte Instagram avec des millions de followers, pour faire que de la merde, faire acheter de la merde à des gens, faire culpabiliser les gens en montrant une vie parfaite, des corps retouchés, etc. Ça, c'est surutiliser ses privilèges de manière totalement négative. Donc voilà, il ne faut vraiment pas prendre cet exemple-là. Mais voilà, avoir conscience de ses privilèges pour en faire quelque chose de bien, ou en tout cas pour essayer d'en faire quelque chose de bien, c'est super important. Et autre chose dans mon hygiène de vie mentale, faire des listes de ce que je veux. Et plus tu fais ça, plus tu... tu vois, là, par exemple, si tu me disais « qu'est-ce que tu veux pas ?», je ne saurais même plus te le dire. Alors qu'avant, je savais ce que je voulais pas et ce que j'aimais pas, et je savais pas vraiment ce que je voulais. Et c'est un exercice, quand tu sais ce que tu veux, donc d'une part, il y a la loi d'attraction, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça fonctionne parce que j'en ai fait expérience plusieurs fois. Mais t'as aussi le fait que bah, quand tu sais ce que tu veux, forcément, plus ou moins inconsciemment, tu vas vers ce que t'as envie d'obtenir ou ce vers quoi tu as envie d'aller. C'est difficile cette phrase. Donc voilà, c'est lister les privilèges, éprouver de la gratitude, faire une liste de ce qu'on veut et pas de ce qu'on veut pas. C'est ça qui fait que ma vie est très équilibrée là tout de suite en fait.
Et pourquoi avoir choisi Instagram comme média ou enfin comme support pour ton média ?
Ah, alors ça, ça remonte à du coup le moment où j'étais en master. Je devais faire un mémoire. Donc tout le monde devait trouver un stage et moi j'avais pas envie de faire un stage dans une entreprise et faire un mémoire qui serve à rien. Donc moi je me suis dit, Roxane, t'es pas là. Déjà mon but dans ce master, c'était pas d'avoir un diplôme, c'était d'apprendre et d'avoir des cartes en main supplémentaires pour pouvoir combattre. Et donc du coup, quand je suis arrivée au moment de faire ce stage, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un stage qui va servir à rien. Je vais créer mon propre projet sur un sujet qui m'intéresse et dans le but de publier ce mémoire par la suite. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je vais étudier un peu les réseaux sociaux et je vais voir si c'est possible de créer un compte militant sur Instagram. Et je vais voir en fait si ça prend en fait. Donc j'ai commencé à réfléchir à des typologies de contenu, d'attractivité des contenus. Et j'ai ouvert le compte Instagram pour que ce soit le laboratoire à taille réelle de mon mémoire. Donc j'avais des apports en informations et en sources par ailleurs, et je testais sur le compte Dirlobis. Sauf que ça a ultra bien marché, et en fait j'ai décidé de mettre mon mémoire de côté pour me concentrer sur Dirlobis, parce que j'étais encore dans l'époque où j'étais à fond dans la collapsologie. Je me disais, c'est maintenant ou jamais, je m'en fous de rendre mon mémoire tout de suite, je veux faire passer des messages. C'est ça le plus important. Et au final, tant mieux, parce que ça a super bien marché, parce que j'ai plein de gens tous les jours qui me disent « tu m'as fait évoluer ». Très bien, c'était fait pour. Donc, tu vois, mon mémoire, j'ai pas abandonné. Je le sortirai à un moment. Bon, là, j'écris un autre livre pour l'instant. Je le sortirai. Mais pour moi, c'était pas pertinent de prendre 3 mois ou 6 mois, peu importe, à faire un test grandeur nature, écrire à la va-vite. Non, je le rendrai, ça se trouve, dans 2 ans à Dauphine. Ça se trouve, ils l'accepteront même pas. Mais au moins, tu vois, ce sera un travail qui aura servi et qui aura... et dont le contenu sera pertinent et intéressant. Donc, si Dauphine n'en veut pas, je le publierai. Je ne sais pas dans quelle maison d'édition, on verra. Mais donc, du coup, Dire le Bise, c'est arrivé sur Instagram parce que c'était le réseau social à la mode chez les jeunes et que moi, j'avais besoin de toucher les jeunes. Pourquoi ? Non pas parce que j'avais envie d'exclure certaines catégories, mais là encore, c'est parce que je n'avais pas de l'énergie pour tout faire. Mais surtout parce que les jeunes... généralement, ont de l'impact sur leurs parents, leurs grands-parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents, par exemple, qui changent parce que leurs enfants ont appris à l'école qu'il fallait recycler.
Il y en a plein.
Il y en a beaucoup. Et du coup, bah, ça vient des générations plus jeunes. Parce que, voilà, je pense qu'il y a aussi un lien affectif. Quand ton enfant te dit « Papa, maman, il faut faire ci pour la planète, moi je serai là encore longtemps », les parents, ils n'ont pas trop d'autre choix que de prendre en compte ça et de changer. Mais donc du coup Instagram parce que c'était un réseau à la mode, parce que c'était un réseau jeune et parce que j'avais une affinité avec Instagram. J'avais pas de compte, enfin si j'avais un compte, d'ailleurs je faisais pas grand chose dessus, mais j'avais en fait visualisé ce que je voulais faire. Je voulais avoir des images, je voulais avoir des textes et je savais à peu près comment le faire. Donc j'ai décidé de me focaliser sur Instagram. J'ai créé un compte Facebook et Twitter, etc. Mais je suis jamais dessus parce que j'ai juste pas le temps. Et parce qu'en fait, Instagram, ça marche très, très bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, si. Et quel est le rôle d'Instagram dans le militantisme, à ton avis ?
En fait, dans le militantisme, toutes les actions sont complémentaires. Donc, je dirais que Instagram, c'est un bon moyen pour la communication. C'est un moyen d'informer. C'est un moyen de sensibiliser. C'est un moyen de rassembler aussi. Tu vois, par exemple, dernièrement, la manifestation en soutien à la famille Traoré a été hyper suivie. Et il y avait, je crois, 80 000 personnes dans les rues. Je parle de la première au TGI, au tribunal de grande instance. Les forces de police étaient dépassées. J'ai lu ça d'ailleurs dans le Canard enchaîné, parce que les services donc liés à la police avaient occulté le fait qu'il pouvait y avoir un rassemblement organisé sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc ça peut rassembler aussi. Et beaucoup. Ça peut vraiment ça peut être viral. Donc, c'est une place importante, mais il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des personnes très importantes dans le milieu qui ne sont pas sur Instagram. En fait, être sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'on a une place extrêmement importante dans l'activisme ou dans le militantisme. Ça peut être lié. Mais il ne faut vraiment pas dévaloriser une personne parce qu'elle n'est pas présente sur les réseaux sociaux. En fait, c'est comme une toile avec plein d'actions complémentaires, plein de moyens complémentaires. Et certains sont liés, certains ne le sont pas. Mais au final, ça crée un tout qui fait que l'activisme avance.
Pour rebondir sur la puissance des réseaux sociaux, mais il n'y a pas si longtemps avec le meeting de Trump, où les jeunes se sont emparés de TikTok et ont acheté plein de billets, enfin pas acheté, mais réservé, et au final personne ne s'est pointé au meeting. Là encore, ça montre à quel point les réseaux sociaux ont quand même un impact dans le quotidien, dans le militantisme et dans l'activisme. Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme militante ?
Ah, clairement. Je suis totalement militante. Je suis beaucoup moins activiste en ce moment parce que j'avais du mal à me positionner. J'étais totalement perdue. Là, je commence à vraiment me recentrer. Donc, je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais recommencer à faire des actions. Enfin, si, je suis activiste, mais après, bon, Jérémy va m'engueuler parce qu'il va me dire « Oui, si, mais t'es activiste. C'est juste qu'en ce moment, t'es pas sur le lieu. Enfin, t'es pas sur les actions. » Ouais, je suis activiste. Mais tu vois, j'ai encore un putain de... Pardon, syndrome de l'imposteur, tu vois. Si, je suis militante, je suis activiste, clairement. Profondément, d'ailleurs. Après, dans mes actions, je fais moins d'activisme en ce moment. Mais faut pas occulter que tout ce que je fais sur Instagram, ça a quand même un rôle dans l'activisme. Voilà, tu vois, je suis encore en train de réfléchir sur ma position dans tout ça. En fait, j'essaie toujours de faire preuve d'humilité. Donc, je sais que j'en fais beaucoup sur Instagram, mais que j'en fais pas beaucoup sur le terrain. Et il faut peu de courage pour faire sur Instagram. Et il faut beaucoup de courage pour être sur le terrain. Quand tu risques les gardes à vue, l'emprisonnement, etc., voilà, c'est pas avec mes petits posts que je risque quoi que ce soit. Ah, d'ailleurs, je vais te parler d'un truc. Ouais, alors, oui. Bon, je finis sur ce sujet-là. Voilà, je suis dans l'activisme facile, on va dire, en ce moment. Parce que j'ai un livre à écrire et que j'ai besoin d'être ailleurs qu'en prison en ce moment. J'essaye de me dire, voilà, quels impacts vont avoir tes actions là tout de suite. Mon livre, si je l'écris correctement et qu'il sort et qu'il est lu, aura beaucoup plus d'impact que si je suis sur une action là tout de suite. Voilà, je suis toujours obligée de m'entendre avec moi-même. Enfin, j'essaie de... Ouais, je suis toujours en guerre contre moi-même. Là, tu vois, là tout de suite, si je parle de cette manière, c'est parce que je réfléchis à 4 milliards de trucs en même temps. Mais ouais, on est toujours en train... Enfin, tous les activistes sont comme ça. On est toujours en pleine réflexion. On est en train de se dire, voilà, est-ce que je devrais pas faire ça? Est-ce que je devrais pas le faire différemment? Enfin, ouais, c'est fatigant. Mais ce dont je voulais te parler, je te disais que je risquais pas grand-chose sur Instagram. J'ai quand même été convoquée par le gouvernement il y a à peu près 9 mois. Je crois que c'était une semaine avant la dernière marche pour le climat. Je crois que c'était en septembre. J'ai reçu un mail qui me disait, faut qu'on vous voie. Et du coup, je me suis dit, cet email est très bizarre. Donc, je suis allée chercher le nom de la personne sur LinkedIn. Je lui dis, est-ce que vous m'avez envoyé ce message? Oui, je vous ai envoyé ce message. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Bah, rencontrons-nous et on verra. Et en fait, clairement, il voulait travailler avec moi pour diffuser la propagande gouvernementale. Donc là, en fait, j'en parle et les gens vont l'entendre. Peut-être que je risque quelque chose à en parler. Mais en fait, je trouve ça juste anormal de faire ce genre de choses. Et en fait, quelques jours après, il y a eu la manifestation où on a été nassés. Il se trouve que je manifestais avec une copine enceinte. On se prenait des gaz pour rien. Donc ma copine a commencé à avoir peur. On a essayé de sortir de la manifestation. On a mis 3 heures à sortir parce qu'on ne nous laissait pas sortir. Toutes les rues étaient bloquées. On a fini par s'enfuir par un parc. Bon, depuis, ma copine a accouché, tout va bien. Mais sur le moment, je me suis dit, mais il fait chaud, on n'a pas d'eau. On ne peut pas aller, même si on a envie d'aller aux toilettes, nulle part. Ma copine est enceinte, on ne la laisse pas sortir. C'est quoi ça? Et en fait, ça m'a tellement énervée que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Je vais parler de ce qui m'est arrivé et je vais dire ce que fait le gouvernement. Donc, non seulement ils nassent les gens, ils gazent les gens... Et en plus de ça, ils essayent d'aller vers les influenceurs, entre guillemets, pour diffuser leur propagande. Et moi, on m'a non seulement demandé si j'avais envie de travailler avec eux, mais aussi si j'avais envie de travailler avec eux en tant qu'agence, donc pour diffuser de manière plus large la propagande gouvernementale. Et je sais que le mot propagande est un mot fort, mais c'est exactement ce qui se passe. Entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un monde. Donc, évidemment que je leur ai dit non, mais j'ai été totalement choquée qu'on veuille m'acheter, en fait, parce que clairement, c'était ça. On a des budgets, on veut t'acheter. Bah, évidemment, j'ai dit non. J'ai dit non, mais voilà, je suis quand même surveillée, même si je suis sur Instagram. Est-ce que je suis fichée? J'en sais rien, certainement. Voilà, je décide encore aujourd'hui d'en parler parce que... en fait, de communiquer les messages du gouvernement, c'est juste ralentir notre combat, qui est un combat qui est urgent. Donc, quand Macron est élu champion de la Terre ou je sais pas quoi, c'est une blague. En fait, il suffit d'aller voir n'importe quel rapport du réseau Action Climat ou de Greenpeace ou de Oxfam pour se rendre compte que le gouvernement a un discours qui est un mensonge total. Non seulement ils ne font rien pour l'écologie, mais ils sont complices de toutes les actions écocidaires. Il faut que les gens sachent ça. On n'est pas anti-système pour être anti-système. On est anti-système parce que le système est malade et parce que tout est fait, en fait, pour que tout aille de plus en plus mal. Et moi, parfois, je me dis, mais est-ce que ces gens sont humains ? Comment tu peux faire en sorte consciemment de d'aggraver les choses alors que toi-même tu vis sur cette planète où Macron n'a pas d'enfants, mais il y a plein de membres du gouvernement qui ont des enfants. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Peut-être qu'ils ont un plan B quelque part. Il y a aussi tous les preppers, tu sais, qui achètent des maisons au large de l'Argentine et en Nouvelle-Zélande pour s'enfuir. Au cas où, d'ailleurs, il y a un épisode de la série Effondrement sur Canal+, qui montre un homme d'affaires qui s'enfuit en avion vers je ne sais quelle contrée. Mais voilà, enfin, c'est ce qui se passe. Le gouvernement ment et le gouvernement essaye d'acheter les personnes qui ont un petit peu d'influence. Donc
auprès des jeunes.
Ouais. Donc attention au message que vous voyez. Si vous avez envie de suivre ce qu'il se passe, abonnez-vous à la newsletter du réseau Action Climat. Voilà, ça s'écrit Réseau Action Climat. C'est une fédération d'associations dont Greenpeace, Oxfam, WWF et bien d'autres qui organiseraient régulièrement des conférences de presse et qui diffusent des infos qui, pour le coup, sont des infos objectives sur ce qui est fait par le gouvernement, ce qui se passe à l'échelle de la France et du monde. Et ça vous permettra juste d'avoir des infos réelles et de ne pas vous laisser entuber par ce que vous entendez dans les beaux discours très éloquents des membres du gouvernement. Voilà.
Parfait, tu fais bien de le rappeler. Ton livre que tu écris en ce moment, c'est sur quoi ?
Alors, je ne peux pas trop en parler parce que ce sera une surprise. Il faut juste savoir que si vous aimez lire mes fictions, vous aimerez mon livre. Le but, en fait, de ce livre, je vais juste vous expliquer ce pourquoi je l'écris. En fait, ça a changé pendant le confinement. À la base, je devais rendre mon livre en avril. Et le problème, c'est que ce sur quoi je me basais était une réalité qui avait totalement changé avec le Covid. Parce que là, on a quand même vécu un truc à l'échelle mondiale qui a, je pense, perturbé pas mal de monde, même si la vie d'après ressemble vraiment à la vie d'avant. Mais je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose. Et en fait, le présent sur lequel je me basais n'existait plus. Donc j'ai vu avec mon éditrice et je lui ai dit, je crois qu'il va falloir qu'on décale la sortie pour que je puisse refaçonner tout mon récit. C'est très bien parce que, en fait, je pense que le résultat sera vachement plus qualitatif que ce qui était prévu. Donc la vie est bien faite. Et le but, ce n'est pas de faire changer les gens par rapport à leur comportement. Je suis toujours sur le truc du comportement individuel. Il y a des gens qui changeront à la lecture du livre parce qu'il y aura beaucoup de prise de conscience dans ce livre. Mais le but, c'est de fermer le livre et de se dire « Ok, j'ai appris plein de choses, je conscientise les choses, mais il faut que je trouve le pourcentage pertinent qui fait que je ne veux pas que les gens ferment le livre en étant déprimés. » Pas du tout. Je veux en fait que les gens ferment le livre en se disant « Ok, il y a vraiment un problème dans ce monde. Je ne serai plus perméable aux discours des gouvernements, des grandes entreprises, etc. qui font du greenwashing, clairement. Et le but, c'est que la majorité adhère aux futures luttes. » Tu vois, en fait, on n'a pas besoin que... Si on, évidemment, ce serait parfait si tout le monde pouvait lutter avec nous, activistes, militants. Mais dans les faits, il y a plein de gens qui ont d'autres choses à gérer que ça. Mais en fait, si on pouvait juste avoir l'appui et l'adhésion du plus grand nombre lorsque on va mettre en place des actions, ça sera parfait, en fait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut maintenant. On veut juste convaincre les gens que les actions qu'on fera dans les prochaines années, possiblement violentes d'ailleurs. Après, la violence, c'est un autre débat, mais il y a un livre qui s'appelle « Comment la non-violence protège l'État » qui est super intéressant sur ce sujet. Et d'ailleurs, la violence, la non-violence est un privilège. La non-violence, c'est un privilège dans le sens où évidemment que tu peux prôner la non-violence quand tu sais t'exprimer, quand t'es éloquent, quand on t'écoute, voilà, quand on t'écoute, quand tu passes bien à la télé, quand on a envie de te mettre en avant. Donc la non-violence est un privilège. Ça veut pas dire que je suis pour la violence, ça veut simplement dire qu'à un moment, quand on est dans une urgence, il va falloir juste envisager toutes les possibilités. Et la violence, c'est pas forcément l'atteinte à l'intégrité des personnes, hein, à l'intégrité physique des personnes. Ça peut être du sabotage, ça peut être d'autres choses. Voilà, je dis pas que je suis pour tout ça. Je dis simplement qu'il va falloir penser à tout ça et que si ce genre d'action arrive à juste titre plus tard, il va falloir que la majorité soit avec nous et ne soit plus perméable aux discours qui font passer les activistes pour des casseurs. Pour des gens sans cervelle qui font ça sans trop savoir pourquoi, voilà, et pour des gens dangereux. Donc on cherche l'adhésion et ce livre via des histoires et des mécanismes psychologiques de prise de conscience, comme ceux qu'on peut retrouver dans mes fictions, amènera les gens qui le liront à se questionner, à réfléchir et à évoluer. Et à certainement, je l'espère, adhérer sans pour autant combattre avec nous, entre guillemets combattre, hein, on peut combattre de plein de manières différentes. Voilà, on a juste besoin d'appui et de soutien. Et c'est ça que je recherche avec ce livre.
J'ai hâte maintenant.
Moi aussi j'ai hâte de le finir et de voir l'impact que ça aura. Mais vraiment, encore une fois, ce livre... Enfin non, c'est pas encore une fois, c'est la première fois que je le dis là, ici. Ce livre, c'est pas un livre... J'ai jamais voulu écrire ce livre pour en vendre plein et me faire de l'argent. Mais ça, je pense que quand on me connaît, on le sait.
Non, de toute façon, quand on écrit un livre, on gagne pas beaucoup d'argent.
Non, évidemment que non. Mais tu vois, moi, si, je te dis ça parce que j'ai envie que ce soit un best-seller. Mais j'ai pas envie que ce soit un best-seller pour gagner de l'argent. Je veux que ce soit un best-seller pour qu'il soit lu et pour que ça puisse faire évoluer plein de gens. Voilà. Je peux pas t'en dire beaucoup plus parce que sinon mon éditrice va m'engueuler.
C'est déjà bien.
Mais ouais, voilà, c'est.
Et donc la sortie a été reportée.
La sortie a été reportée et ça sera certainement pour janvier ou février 2021.
D'accord. Donc en parallèle de ce bouquin sur lequel tu travailles et de ton compte Instagram, tu as continué à travailler avec des influenceurs. J'aime pas trop le terme. Enfin, c'est un peu compliqué parce que c'est. Mais bon, bref, avec des influenceurs. En fait, un petit peu comme tu faisais avec la régie pub pour laquelle tu travaillais quand je t'avais rencontrée.
Ouais. Alors, en fait, quand je suis partie de cette régie, le but c'était pas du tout de refaire la même chose, mais simplement, bah, quand je suis partie, en fait, il y a de plus en plus d'influx, comme je les appelle, qui sont revenus vers moi en me disant Roxane, comment je fais ce contrat, machin, qu'est-ce que je dois dire à cette marque. Et en fait, par la force des choses, j'ai recréé une agence d'influence, mais cette fois-ci qui est mon bébé et donc à ma sauce. Et c'est ça qui me permet de vivre et de pouvoir, de manière bénévole, produire tout le contenu sur Instagram. Donc là, tout de suite, je suis freelance.
Puisque je voulais rappeler quand même que Dearlobby est un média indépendant, sans publicité. Il t'arrive de faire très rarement des contenus sponsorisés. Ouais. T'en as fait un avec Enercop, ouais, avec Hors du Monde.
Ouais, j'en fais très rarement.
Voilà.
J'en fais très rarement.
Tête, mais...
C'est tout le temps des marques éthiques ou des ONG. Je ne collabore pas avec des marques qui me semblent pas en accord avec mes valeurs.
Et donc, on a bien conscience que c'est, vu que c'est très ponctuel, ça ne permet pas
ça
de
permet
vivre
pas
au
de
quotidien.
Vivre, pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai cette activité d'agence à côté. Et d'ailleurs, par contre, je vends des fictions parfois. Je peux écrire des fictions, bah, c'est ce que j'ai fait pour Hors du Monde, pour mettre la lumière sur quelque chose. Donc là, par exemple, c'était pour Hors du Monde, c'était l'arrivée d'un des fondateurs qui allait visiter une mine d'extraction d'or et qui voyait la catastrophe que c'était.
Elle
et
était chouette, cette fiction.
Ouais, j'ai bien aimé. Quand je la relis, j'aime bien, j'ai l'impression d'être là-bas. Mais en fait, c'était juste pour que les gens comprennent que extraire de l'or, c'est pas anodin. Et qu'il vaut mieux vraiment favoriser leur recycler. Donc je peux vendre des fictions. Je fais des campagnes avec mon agence. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça que je vis. Je suis minimaliste. Donc tant que j'arrive à payer mon loyer et manger, je suis contente. Je ne consomme rien d'autre. Donc ça me suffit. Maintenant, c'est vrai que je pense que je vais recommencer à chercher un travail. À partir de septembre, là, dès que vous écoutez, quand vous écoutez ce podcast, je suis en train de rechercher où j'ai peut-être déjà trouvé ou pas. Mais je pense qu'il me faut un travail pour être plus sereine financièrement parlant. J'aurai moins de temps pour créer plein d'autres choses, mais Mais je pense que j'ai besoin d'avoir une phase où je suis moins stressée par rapport à tout ça. Donc, si je pouvais trouver un boulot dans la com en ONG, bah écoutez, je serais ravie. Donc, on verra. Si vous me suivez aujourd'hui, du coup, suite au podcast sur mon Instagram, vous verrez, si j'ai... Ouais, bon, vous verrez si j'ai réussi à trouver ou si vous êtes, si vous cherchez quelqu'un dans la com, écrivez-moi si j'ai toujours pas trouvé.
Donc voilà. T'as des ONG pour lesquelles tu préférerais travailler ?
Je suis en amour pour Greenpeace. En amour pour, en amour avec, peu importe. Je les aime trop. Je suis partie avec eux cet été en Guyane sur un bateau avec une influenceuse, Julie, 12 février. Et du coup, j'ai non seulement vu les actions de Greenpeace, mais j'ai aussi bossé avec l'équipe et j'ai vécu avec l'équipe sur un bateau. Et je les aime profondément. Et j'ai vu leur manière de travailler ensemble, leur relation, qui est presque amicale d'ailleurs parfois. Je les aime trop. Donc je veux travailler pour Greenpeace. J'aime beaucoup Oxfam aussi, parce que j'aime beaucoup la convergence entre l'écologie et le social. J'aime beaucoup Cécile Duflo. Voilà, j'aime beaucoup moins une autre ONG, mais je ne sais pas si je vais la citer. Une autre ONG qui est financée par, entre autres, Coca-Cola. Je ne donnerai pas de nom, parce que ce serait quand même un petit peu contre-productif dans le sens où cette ONG fait quand même de très bons rapports scientifiques. Mais voilà, ouais, Greenpeace, Oxfam, je les aime beaucoup. Voilà, donc je sais pas, j'ai aussi un projet en ce moment avec deux institutions internationales. Je vais pas donner les noms parce que c'est en discussion, mais il se pourrait que je traduise des rapports scientifiques en fiction de manière récurrente à partir de septembre.
Ça, ce serait chouette.
Et c'est vraiment pas n'importe quelle institution. Mais je dis rien parce que j'ai pas envie de me porter la poisse. Mais voilà, j'ai quand même plein de projets. Et j'ai besoin d'une stabilité. On verra comment ça évoluera. Après, une stabilité, ça peut être aussi un contrat régulier avec une de ces deux institutions. Et là, dans ce cas-là, je suis à l'abri pour le temps du contrat.
Et qu'est-ce que tu feras de tes influx alors ?
Ah, mais ça, je les garde toujours. Ça, je les garderai toujours parce que c'est pas quelque chose qui me prend énormément de temps. Parce que, enfin, dans le milieu green, on refuse 90% des offres qu'on a, évidemment. Parce que bah, c'est toujours des marques qui nous intéressent pas. Donc, ça, je pense que ça, je pourrais le garder par ailleurs. Et ça me permet de garder un pied dans les pratiques des réseaux sociaux. Étant donné que moi, je suis moi-même sur les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble de tous ces leviers. Donc, j'y resterai, sachant qu'en plus, j'ai envie de publier mon mémoire à un moment donné. Donc, voilà, il y a plein de choses.
Et puis, tu es une fervente militante pour les influx, en tout cas, pour que tout travail mérite salaire et que ça t'habite depuis longtemps.
Ça me rend complètement dingue de voir des marques qui, sur leur site internet, ont tout un texte sur leur éthique par rapport aux travailleurs, aux travailleuses, à la production, l'extraction, machin, et qui après vont solliciter des influenceurs et influenceuses, souvent influenceuses d'ailleurs, en leur disant « Voilà, on aimerait que tu travailles gratuitement pour nous, mais comprends, on est une petite entreprise, mais oh, les influx sont des auto-entrepreneurs pour la plupart, qui sont obligés de travailler à côté parce que justement, ils n'arrivent pas à gagner leur vie avec tout ce qu'ils font de leurs réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu ne peux pas te dire éthique si, par ailleurs, tu ne gardes pas consciemment une part de ton budget pour la communication auprès de ces influenceurs et influenceuses. Quand je sais que ces mêmes marques, alors que je travaillais dans la presse, avaient des budgets com pour acheter des pages de pub à 2500, 5000 euros dans des magazines et qui, à côté, disaient aux influx « on n'a pas de budget », non, vous avez choisi de ne pas avoir de budget. Donc ça doit changer. Et malheureusement, il y a le syndrome de l'imposteur qui est trop présent dans ce milieu-là. Et les personnes, enfin les influx, ont du mal à se défendre parce qu'ils se disent « ah oui, mais non, mais enfin... » Non, il n'y a pas de oui, mais non, en fait. Si tu passes 5 heures à écrire ton article, le minimum syndical, c'est que tu dois payer au moins en taux horaire de ces 5 heures. C'est le minimum syndical, même pour une marque que tu aimes bien. Et après, il faut payer l'audience. Quand tu achètes un spot publicitaire à la télé, plus il y a d'audience, plus c'est cher. Donc, il ne faut pas avoir peur de chiffrer un taux horaire pour le temps de travail qui a été nécessaire et le coût de l'audience. Et dernière chose, s'il y a des personnes qui sont dans ces cas-là qui nous écoutent, il y a une distinction qui est très facile à faire. Il y a le spontané. Le spontané, c'est quand tu décides de parler d'une marque, auquel cas ça peut être gratuit, aucun problème. Quand une marque vient vers toi, c'est qu'elle est intéressée par ton pouvoir de diffusion des infos et ton audience. À partir de là, c'est obligatoirement payant parce que la marque te voit comme un potentiel conversion pour ses produits. Donc voilà, spontané, pas spontané. C'est la nuance. Quand on vient vers toi, tu fais payer. Quand tu reçois un produit parce que tu t'es mis d'accord avec la marque, que tu as envie d'en parler spontanément, fais-le, il n'y a pas de problème. Quand la marque te dit, on a ce produit qui sort, on aimerait que t'en parles, c'est payant. Point. C'est tout. Parce que la marque a vu en toi une publicité, tout simplement. Donc, c'est payant.
C'est clair et pourtant difficile encore à entendre pour plein de marques.
Mais ça change. Ça change. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que quand tu contactes 50 personnes et que tu as 45 personnes qui te disent « bah non, je ne travaillerai pas gratuitement », bah, y a un moment, tu es obligé en fait, de revoir ton business model et de payer les gens. En sachant qu'en plus, les tarifs ont été benchmarkés, je les ai benchmarkés, ce n'est pas des tarifs ahurissants, hein. C'est des tarifs normaux, des tarifs mérités. Donc ça peut paraître beaucoup pour des petites marques ou pour des marques qui n'ont pas l'habitude, mais c'est comme ça. Après, il y a une autre manière de faire. Si tu as une petite marque et que tu n'as vraiment pas d'argent, que tu veux faire découvrir tes produits, bah, tu dis voilà, est-ce que tu fais une liste d'influx, tu leur dis voilà, est-ce que vous aimeriez recevoir les produits, mais tu leur dis aussi que c'est sans engagement.
Bien sûr.
Et après, tu auras peut-être des retours. Si tu as des bons produits et que tu as une bonne relation avec ces personnes et que tu fais preuve de respect, bah, tu auras certainement plus de chances d'avoir des retours que si tu fais l'inverse. Après, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des retours tout le temps, parce que les influenceurs reçoivent énormément de produits, etc. Mais c'est une des options, l'envoi de produits sans attente ni coup de pression pour démarrer. Ça peut être une des options.
Merci beaucoup, Roxane. C'était encore hyper intéressant. On pourrait parler pendant des heures.
C'est horrible. Hein.
C'est horrible, mais ça fait déjà une heure. Je pense
On fera un numéro 3
à la sortie du livre.
Ah oui, oui, d'accord. Okay. Okay. On fera ça.
Ce sera pas mal. Ou on pourrait même faire un numéro 3 en live.
Ah ouais.
Ce serait pas mal, ça.
Ouais, ouais, ce serait bien.
Et on enregistre aussi, mais ouais. On fait aussi en live. Ouais. Ça pourrait être sympa.
Après la sortie du livre. Ouais. Ouais, ce serait cool.
On se note ça.
Allez.
Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, de toute façon, comme d'habitude, j'indique tous les liens dans la barre d'infos. Mm-hmm. Et surtout, chers auditeurs, je vous invite à consulter le compte Instagram de Roxane, qui parfois peut être un peu dérangeant, ou en tout cas...
C'est le but.
On n'a pas toujours envie de lire les fictions jusqu'au bout, mais pourtant il le faut et c'est passionnant et il y a un travail de dingue derrière ça. Donc voilà, filez découvrir tout ça.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, vous retrouverez tous les liens utiles dans la barre de description de l'épisode. Et surtout, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et vos collègues, mais également sur les réseaux sociaux en identifiant le compte de Basilic Podcast et celui de Dear Lobbies. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et très prochainement pour un nouvel hors-série. À très bientôt !